depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André Dimboujimaï, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Le processus pour la résolution du conflit en RDC sous l'égide des États-Unis est toujours en cours. C'est en effet le vendredi 2 mai 2025, comme prévu après la signature le 25 avril à Washington du déclaration des principes entre le Rwanda et la RDC pour le rétablissement de la paix à l'est de la RDC que les experts congolais, rwandais et américains devraient se convenir de l'avant-projet de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Ces textes de l'avant-projet doivent s'inscrire dans la continuité de la déclaration des principes signée l'année semaine passé, notamment sur la souveraineté territoriale, la lutte contre les groupes armés, les problèmes des réfugiés, les commerces des minerais, la coopération régionale et le rôle des organisations internationales. Cependant, tout en saluant toutes les initiatives visant le rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC et dans la région des Grands Lacs, certaines voix se sont déjà levées avant cette date du 2 mai pour exiger plus de transparence et d'inclusivité dans ces processus initiés par les États-Unis. D'autres voix exigent par ailleurs l'implication du Parlement congolais avant la mise en application de tout accord de paix qui sera issu de ces processus menés sous la houlette des États-Unis. Dans l'entretemps, bon nombre de Congolais ne cessent de s'interroger sur l'état d'avancement d'autres processus de paix, en l'occurrence les processus de Luanda et de Nairobi, les processus de Doha, le pacte social de la CENCO et de l'ECC, et aussi d'autres initiatives locales sur la cohésion nationale. Comment commentez-vous cette actualité? Vos actions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 85 44 65 536. Debs Vita est à la mise en ordre de ce magazine. Elise Kavira sur la réalisation, la coordination. Nation Nombela pour l'équipe multimédia au micro. C'est Marcel Gomombala. Tout à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Merci de nous écouter partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Merci également de nous suivre en direct sur YouTube, Facebook et X. Votre magazine des champs citoyens Parole aux auditeurs s'intéresse aujourd'hui au processus en cours de l'avant-projet de paix sous l'égide des États-Unis, mais aussi d'autres processus, notamment le processus de Luanda et de Nairobi, le processus de Doha, le pacte social de la CENCO de l'ECC et aussi d'autres initiatives locales sur la cohésion nationale. Vous avez été nombreux à réagir par rapport à ces sujets. Nous vous disons merci et comme d'habitude, on aura l'occasion de lire quelques-unes de vos réactions au cours de ce magazine. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans ces studios l'honorable Joseph Kouri. Honorable, bonjour.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi et merci une fois de plus pour cette invitation.
Voilà, merci à vous aussi d'avoir chaque fois l'occasion de répondre à nos invitations. Et je rappelle que vous êtes député national élu du Kata Kokombe dans les Sankouri. Vous êtes rapporteur adjoint de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Donc avec vous on va aborder cette question du processus en cours de l'avant-projet de paix sous l'égide des États-Unis. Alors s'il faut d'abord commencer par cet avant-projet de paix sous l'égide des États-Unis, les experts devaient se retrouver les 2 mai, ils se sont retrouvés pour en tout cas cet avant-projet de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Le processus est en cours, mais il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ces processus. Il y a ceux qui estiment qu'il faudra absolument que le Parlement soit impliqué avant que tout accord de paix soit validé entre le Rwanda et la RDC sous l'égide des États-Unis. Mais là, ceux qui estiment également qu'il faut absolument beaucoup de prudence de la part de la RDC et pourquoi pas aussi une sorte d'inclusivité par rapport à ces projets d'accord de la paix entre la RDC et le Rwanda.
Merci beaucoup, Monsieur Marcel. Nous allons essayer, en ce qui nous concerne, de relever quelques éléments parce que c'est un sujet qui fait de l'effervescence au niveau interne et au niveau international. Mais à notre niveau, nous allons tenter de relever quelques éléments de précision justement pour permettre à ce que l'opinion nationale particulièrement puisse être éclairée sur la question. En fait, la déclaration de principe signée le 25 avril dernier entre la RDC et le Rwanda constitue en fait un portail qui ouvre vers des discussions dans une approche plus globalisante, plus holistique, justement pour parvenir à sécuriser la est de la République démocratique du Congo et aussi la sous-région, parce que la situation de la RDC a des conséquences au niveau de la sous-région, de la région et même au niveau mondial. Et donc, si on ne prend pas avec beaucoup de tact, on ne traite pas cette question avec beaucoup de justesse, excusez-moi, nous pouvons parvenir ou pouvons arriver à avoir un conflit à s'ouvrir même au niveau les plus élevés, au niveau international. Comme je l'ai dit, cette déclaration principe constitue une étape majeure dans les processus de pacification de notre pays. Il faut dire que la vision du chef de l'État à ce qui concerne la pacification de la RDC, c'est une vision qui voudrait obtenir une paix durable. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'avoir une paix précaire après 2 ans, 3 ans qu'on puisse revenir sur la question. Et à ce niveau, il y a lieu de pouvoir le rappeler, il y a un travail de fond qui avait déjà commencé, je dois le rappeler, avec le VPM et Christophe Lutundula son temps, et dont la continuité est en train d'être parfaitement assurée par Madame la ministre d'État aux Affaires étrangères. Donc, les Congolais déjà à ces niveaux doivent être apaisés et que les présidents de la République a dans ses œuvres ou a dans sa vision l'idée de pouvoir pacifier durablement l'Est de la République. Je veux souligner encore une autre chose, monsieur Marcel, parce que toute l'effervescence s'observe plus sur la gestion des minerais, la question relative à l'exploitation des richesses congolaises. Vous savez que l'essentiel de la guerre dont la RDC est victime est axé sur l'économie est axée sur les richesses que la République démocratique du Congo possède dans son sol et dans son sous-sol. Et toute initiative de paix qui n'aborderait pas cette question sera vouée à l'échec. C'est ainsi que, dans le cadre de cette déclaration de principe, on essaye d'affirmer ou on essaie de définir les principes fondamentaux, les lignes maîtresses dans le cadre de l'exploitation et de la jouissance de toutes les richesses que la République démocratique du Congo a dans son sol et dans son sous-sol, ainsi que les richesses qui sont frontalières avec d'autres pays.
Mais c'est justement par rapport à, s'il vous plaît, Honorable, c'est justement par rapport à cela que les gens demandent plus de prix.
J'en viens. Je souligne que les préoccupations du peuple congolais sont légitimes.
Tout à fait.
Elles sont légitimes. Et à mon sens, je considère que ceci constitue des alertes vis-à-vis du gouvernement pour que justement, lorsque l'accord de paix sera abordé, que le gouvernement puisse prendre des précautions de sorte à ne pas brader les richesses de notre pays. Et je sais que la vision du chef de l'État et son gouvernement n'est pas orientée dans le sens de pouvoir brader les richesses de notre pays. Il faut retenir que l'essentiel dans toute la démarche repose sur la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas autre chose qui soit au-delà de la paix. Nous ne pouvons pas prétendre construire notre pays, nous ne pouvons pas envisager s'inscrire sur la voie du développement si justement notre pays n'est pas pacifié. L'important ici c'est quoi? C'est parvenir à installer durablement la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez que nous comptons aujourd'hui plus de 10 millions de morts. Et est-ce que nous devons continuer dans ce sens? Je pense qu'en bon père de famille, les chefs de l'État cherchent à établir durablement la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais il y a une précision aussi que je dois apporter. C'est que lorsque vous lisez cette déclaration de principe, il y a la première partie qui porte sur l'affirmation d'un certain nombre des principes fondamentaux, les principes politiques qui constituent la substance même du droit international dans les cas de relations entre les États. C'est notamment la protection de l'intégrité territoriale et de la souveraineté. Il faut le dire que lorsqu'on dit que lorsque cette déclaration souligne la protection de la souveraineté et réaffirme la protection de l'intégrité, excusez-moi, et réaffirme la souveraineté de la RDC, cela sous-entend que la RDC va pleinement exercer son pouvoir ou sa souveraineté sur son sol, son sous-sol et tout ce qui s'y trouve. Et il y a aussi un autre principe majeur, d'ailleurs élevé dans cette déclaration, c'est la non-ingérence dans les affaires internes des États. Il y a aussi les règlements pacifiques des différends. Il faudrait que les Congolais puissent retenir ceci. Lorsque on met en place un instrument comme celui-là, eh bien, il y a toute la logique qui conduit la mise en place de cet instrument. C'est d'abord la réaffirmation des principes fondamentaux qui constituent l'existence de tout État. Notre pays ne peut en aucun cas, nos autorités, je vois le président de la République, ne peut en aucun cas brader les richesses de notre pays ou brader notre souveraineté pourvu qu'on arrive à une paix durable. Évidemment, comme je l'ai souligné, l'objectif c'est d'obtenir la paix, mais nous ne pouvons pas franchir les Rubicons. C'est-à-dire, on ne peut pas aller au-delà de ce qui doit être fait.
C'est ce que les Congolais, en tout cas, attendent des experts congolais qui vont travailler par rapport à cet avant-projet de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Mais il y a également ceux qui s'interrogent par rapport au rôle que peut jouer les parlements. Il y a ceux qui estiment que plusieurs fois la RDC s'est fait piéger. En tout cas, beaucoup de Congolais, que ce soit au niveau des analystes politiques, que ce soit au niveau des acteurs politiques, on estime que bien souvent, je ne sais pas pourquoi la RDC s'est fait piéger chaque fois qu'il y a des accords. Et cette fois-ci, beaucoup exigent plus de transparence et souhaiteraient même que le Parlement puisse jouer un rôle.
Écoutez, lorsque vous lisez l'article 214 et 215 de la Constitution, eh bien, on dit qu'il y a deux étapes majeures ou deux aspects pour lesquels ou dans lesquels le Parlement intervient. C'est un, l'approbation. Deux, la ratification. On approuve que ce qui existe déjà et ce qui l'organe ou l'institution qui a compétence du point de vue ou sur la base du cadre constitutionnel de conclure des accords, c'est l'exécutif. En d'autres termes, l'exécutif conclut un accord ou un traité et ce traité-là est approuvé ou ratifié suivant la procédure interne qui implique l'intervention du Parlement. Donc je ne vois pas ici l'intérêt de ceux qui disent ou de ceux qui pensent que le président de la République ou cette démarche-là aurait violé la Constitution, aurait violé l'article 214 et 215 de la Constitution. Je dis ceci, que le Parlement intervient pour approuver ou ratifier. On approuve, comme je l'ai dit, que l'accord qui existe, en d'autres termes, lorsque l'exécutif aura signé avec le Rwanda, l'accord est signé, c'est à ce moment-là que cela sera présenté à l'Assemblée nationale pour l'approbation, disons au Parlement, aux deux chambres, pour approbation. Et si c'était un traité, parce qu'il faut souligner qu'il y a des nuances de taille entre un traité et un accord. Je ne vais pas y revenir parce que ça va nous prendre assez du temps. Mais ici, la RDC n'est pas en train de conclure un traité de paix, mais plutôt un accord de paix. Donc, il y a des considérations sur le plan international, sur le plan du droit international, qui sont des détails qui doivent être observés. Et donc, je peux conclure à ce niveau oui. qu'il n'y a pas violation de l'article 214 et 215 de la Constitution, dès lors que le Parlement a pour vocation d'intervenir dans l'approbation et dans la ratification d'un instrument qui existe déjà.
Alors, vous serez d'accord avec moi, en tout cas, ces derniers jours, beaucoup s'accordent, en tout cas, on remarquait qu'il y a les États-Unis et le Qatar qui sont très actifs pour faire progresser les discussions entre la RDC et le Rwanda. Mais il y a également ceux qui se posent la question. Mais il y a également d'autres initiatives, notamment le processus de paix de Luanda et de Nairobi. Il y a le pacte social de la CENCO et de l'ECC, mais aussi des initiatives locales pour la cohésion nationale. Qu'est-ce qu'il en est alors de tout cela?
Il y a ceci. Le processus de Luanda, je peux considérer que c'est celui-là qui est récupéré par les États-Unis. Et le processus de Nairobi, c'est ça en fait les processus de Doha actuellement. C'est ça la compréhension qu'il faudrait avoir. Alors, vous savez, je soulève un élément. Il y a une opinion qui pense que le président de la République s'est rébuffé sur sa déclaration, sa décision de ne pas traiter avec les Pantins, ne pas traiter avec l'AFSU ou le M23. Il devait traiter qu'avec le président Kagame. C'est tellement vrai que le M23, n'est venu sur la table de discussion à Doha qu'après la rencontre entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Et donc, si le président Tshisekedi ne s'était pas préalablement rencontré avec son homologue de Kigali, les M23 ou l'EFC ne seraient pas venus sur la table de discussion à Doha. Et donc, le président de la République, à mon sens, est resté logique sur sa décision. Et vous savez aujourd'hui, il faut le souligner, je me dois de relever ça, c'est que les deux processus, aujourd'hui le processus de Washington et le Doha, sont complémentaires. Vous avez suivi dernièrement, il y a eu la réunion qui s'est tenue toujours à Doha, qui a connu la participation de représentants des États-Unis, de la France, du Togo, de la RDC, du Rwanda. C'est justement pour parvenir à la résolution de ces conflits s'agissant du gouvernement congolais et les groupes armés. Alors, comme je l'ai dit, au niveau des États, nous avons cette démarche-là des États-Unis d'Amérique. Et la question des groupes armés au niveau interne, c'est ça Doha. Et donc, nous sommes toujours dans le même schéma. Nous sommes toujours sur la même logique. Il y a ici l'Union africaine qui a nommé, je pense, cinq médiateurs. Je suis africain. Je suis jeune Congolais, mais l'histoire du fonctionnement de l'Union africaine relève que jusqu'ici, l'Union africaine n'est jamais parvenue à résoudre une question entre les Africains. Pourtant, l'idée de la création de l'Union africaine, c'est justement pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dites-moi, à part les présidents togolais Faure Gnassingbé et l'ancien président nigérien Obasanjo qui se sont déplacés. Ces groupes de cinq se sont réunis quand?
Mais le président Tshisekedi qui arrive aussi à mener à bien la transition au niveau du Tchad.
Évidemment, il a parfaitement.
Comme d'autres présidents peuvent le faire aussi.
Non, pour le cas de la RDC, il ne s'agit pas d'une option de transition. Donc, le cas de la RDC n'est pas celui du Tchad. Donc, il faut faire la part des choses.
Voilà, on revient à vos honorables, on va ouvrir le standard parce que la CEC estime, au-delà de tous ces processus de paix, il n'y a que le dialogue entre Congolais qui peut construire une véritable solution.
Je vais dire un mot avant que l'on puisse peut-être passer à autre chose. Le président Tshisekedi n'a jamais été contre le dialogue entre les Congolais. L'initiative, parce que vous avez posé la question, peut-être que j'ai oublié d'y revenir, l'initiative des prêtres catholiques et des pasteurs de l'ECC. Si cette initiative consiste à créer un cadre de dialogue entre les Congolais, la question légitime que moi, Joseph Kouy, j'ai pu me poser, pourquoi est-ce qu'on doit aborder ou ces prêtres-là doivent aller visiter d'autres chefs d'État qui, malheureusement, pour la plupart des cas, n'ont jamais cherché l'intérêt de la RDC. Alors, si la démarche consiste à créer les conditions de dialogue entre Congolais, eh bien, tout le travail devait se faire au niveau interne. Pourquoi ils sont partis à Washington? Pourquoi ils sont partis en Ouganda? Pourquoi ils sont partis au Rwanda? Pourquoi ils sont partis au Qatar? Dès lors qu'au Qatar, c'est une autre démarche entre les groupes armés. Je pense que toute la logique consisterait à ce que, s'ils ont ceci comme objectif de pouvoir établir les conditions de dialogue entre les Congolais, que le travail se fasse au niveau interne. Parce que procéder autrement, c'est justement vouloir nous exposer. Je dis encore un mot. J'ai suivi la déclaration des opposants, déclaration commune signée entre l'ancien président Kabila, Martin Fayulu, Délice Sanga et Moïse Katumbi. Je dis ceci et je rappelle, le président Tshisekedi n'a jamais été contre l'opposition. Et le président Tshisekedi, lors de ce discours d'investiture l'année dernière, c'était le 24 janvier, si je ne me trompe pas, a relevé dans son discours, excusez-moi, tautologique, qu'il a besoin d'une opposition participative. Et donc, si l'opposition a besoin de contribuer pour le bien-être de la population, eh bien, on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur du pays. Trouvons des solutions congolaises aux problèmes.
Voilà, on revient à vous, honorable Joseph Coy. On va ouvrir le standard. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de ce processus en cours de l'avant-projet de paix sous l'égide des États-Unis entre la RDC et le Rwanda, mais aussi d'autres initiatives de paix. Pour le rétablissement de la paix à RDC, si vous voulez intervenir, composez les 085 44 65 536.
Montons son, notre, votre, l'heure.
Le français parlons-en, c'est tous les samedis à 13h05. Rediffusion dimanche à 6h30, lundi à 14h20 et 20h15 sur Radio Okapi.
Parlons français. Le français, parlons-en.
Le français, parlons-en. Un programme de Radio Okapi coproduit avec l'ambassade de France en RDC et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le français, parlons-en, une autre façon d'apprendre et de parler le français.
Parlons français. Le français, parlons-en.
Voilà, nous avons en ligne Amos Bissimwa depuis Bukavu, Franck, qui nous appelait depuis Vienne en Autriche, Christian Kassessi qui est à Kampala, en Ouganda, et Eric Herry, qui nous appelle depuis Kalemi. Amos Bissimwa, vous êtes à Bukavu, vous avez la parole.
Merci Marcel, je tiens à saluer tous les auditeurs et auditeurs de la radio Papi. Je salue l'honorable qui est notre invité d'aujourd'hui. Au fait, tous les Congolais, particulièrement qui...
Amos, il y a apparemment des soucis avec la liaison téléphonique avec Amos qui est à Bukavu, on va revenir plus tard. Alors on va en dehors de nos frontières à Vienne pour retrouver Franck. Franck, vous êtes en ligne depuis Vienne.
Oui, bonjour à votre studio. Bonjour à l'honorable Joseph qui est là avec vous au studio.
On vous écoute, Franck. Allez-y, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Nous sommes en train de vous suivre aussi les décors plantés par l'honorable. Quelque part, on peut partager ses avis dans la mesure où il reste une réalité incontestable que la République démocratique du Congo et le Rwanda resteront des voisins car nous sommes liés par certains aspects historiques communs, nos rapports de voisinage. Et partant de cet aspect, il y a deux dimensions de vie et certaines réalités des sociétés que nous partagerons toujours. Mais le fait d'être voisin avec tel pays ne signifie pas qu'on doit tout accepter. Et c'est à ce niveau-là que les questions les plus essentielles se posent, surtout du côté congolais. Quand il s'agit maintenant de procéder à des négociations de cette ampleur, quel est le sens des responsabilités que nous affichons comme État par rapport à l'intégrité de nos frontières, par rapport à la gestion de notre sous-sol, par rapport à notre identité et par rapport à la franchise de notre collaboration avec ces États voisins et vice-versa. Et si déjà de notre part, nous ne savons pas viser ce qui est plus essentiel pour nous comme État par rapport à notre avenir collectif, c'est là où il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Parce que, en suivant l'honorable, je suis partiellement d'accord avec lui, mais j'aurais souhaité qu'il aborde aussi les fonds de la réalité. Parce que, monsieur l'honorable, je crois que vous le savez mieux que moi, il y a quelques jours, quelques semaines, notre gouvernement entreprenait des démarches pour négocier avec le gouvernement américain pour des partenariats gagnant-gagnant. Mais je crois qu'en entreprenant toutes ces démarches-là, il voulait déjà un peu éviter qu'il y ait trop d'intermédiaires. Mais ça vous donne maintenant quelle appréhension vous vous faites, quelle lecture de voir maintenant le gouvernement américain contraindre subtilement la République démocratique du Congo à ouvrir toutes les zones et fenêtres économiques pour la co-gestion avec le Rwanda. Mais nous suivons tous l'actualité de ce monde. Les États-Unis font frontière avec le Mexique. Est-ce que les Américains qui nous demandent d'ouvrir, de co-gérer nos richesses avec les Rwandais seront d'accord qu'on leur demande aussi de co-gérer leur potentialité avec le Mexique. Ce sont peut-être des questions qui devaient nous donner à penser et nous aider à comprendre un peu certains pièges qu'on nous a tendus. Puis, quelque part là, on ne peut pas comprendre que le Rwanda soit greffé dans tout cela, parce que les problèmes qui se posent, on doit les condamner. Bon, quelque part là, si le Rwanda accepte de signer, ça signifie qu'il y a un peu reconnaissance de respecter nos frontières. Mais c'est pas pour la première fois que le Rwanda nous joue des faits comme ça. Puis, personnellement, je ne partage pas sa lecture quand il veut un peu minimiser les efforts des évêques de la CENCO et les pasteurs de l'ECC. Parce que s'il peut être attentif en suivant l'actualité du pays, la plupart des citoyens congolais souciés de l'avenir de ces pays recommanderaient ce dialogue-là. Mais pour entreprendre ce dialogue, je ne vois pas s'il y a vraiment du mal, si les évêques doivent se donner de la peine pour aussi sensibiliser les autres qui viennent s'inviter au niveau de cette situation-là. Et à suivre l'invité, c'est comme s'il est à la défensive, il veut seulement défendre il veut seulement défendre un positionnement pour certains au lieu peut-être de viser l'avenir collectif, parce que on ne doit pas seulement voir les problèmes qui se posent au Congo, mais on doit voir dans l'ensemble toutes les conséquences. Tous ces désordres, ça nous vient d'où? C'est parce que d'abord, au niveau interne, nous ne savons pas nous mettre d'accord. C'est comme ça qu'on arrive à manipuler certains Congolais. Alors maintenant, pour éviter d'être manipulés, il faut aussi responsabiliser ceux par qui toutes ces manipulations-là transitent. Alors je crois que le problème devant lequel nous nous trouvons est tellement délicat qu'il nous faut beaucoup de sens de responsabilité pour ne pas seulement voir le pouvoir, les faveurs, les avantages, mais il faut aussi voir l'avenir collectif de
Franck,
et non seulement comme système de pouvoir.
Franck, maintenant, on retient, il faut beaucoup de responsabilité, et vous l'avez également dit, beaucoup de prudence. Il faut plus penser à l'intérêt général des Congolais et des générations futures dans tout ce qu'il y aura comme accord pour ce qui concerne le rétablissement de la paix à l'est de la RDC. Merci Franck d'avoir pu depuis venir en Autriche. Christian Kassessi, vous êtes à Kampala, en Ouganda. Christian, vous avez la parole.
Oui, bonjour, chers journalistes, et mes salutations également à l'invité que je salue. Je voudrais dire que l'accord à intervenir entre le gouvernement et le gouvernement rwandais mérite d'être salué dans la mesure où c'est l'une des voies à suivre s'il faut parvenir au rétablissement de la paix en RDC. Cependant, il y a quelques questions qui méritent d'être posées d'Amérique, non pas exiger du Rwanda le respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui pourtant, si elle était respectée ou appliquée, constituerait une avance significative pour le rétablissement de la paix en RDC, que même l'accord qui sera signé. Mais finalement, pourquoi prendre autant de temps, sachant qu'on est en matière de conflit armé et que chaque minute qui passe, ce sont des vies humaines qui sont décimées? Venons-en. S'agissant également de certains qui estiment que le président de la République devrait impliquer le Parlement dans la signature ou dans la négociation du présent accord, je voudrais leur dire ceci, que c'est question d'étape. Que là, nous sommes dans un type d'accord ou traité appelé, d'ailleurs, pour des raisons pédagogiques, je rappelle à l'invité qu'en droit international, accord et traité signifient même chose. Là, nous sommes dans l'hypothèse d'un traité solennel, c'est-à-dire la signature ne vont pas à ratification. Et dans les cas sous examen ici, la Constitution de la République nous renvoie à son article 214 dans les matières limitativement énumérées, c'est-à-dire matière de paix. Il est le cas pour le présent accord où finalement c'est seulement le Parlement qui doit approuver et ratifier. Cela nous renvoie également aussi à dire que cet accord-là peut être signé entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, mais à la fin le Parlement congolais ne les ratifie pas ou ne ratifie pas alors toutes les clauses contenues dans ces traités-là. Alors la question qui mérite d'être posée, qu'est-ce qui adviendrait pour le devenir de la paix en RDC si le Parlement congolais refusait de ratifier alors l'important ou l'essentiel des points inscrits dans ces accords-là.
Voilà, merci. Voilà, merci.
Choisissent, je suis en train de citer, oui. À moins que le Parlement congolais choisisse d'être Mouton de Paris comme il a toujours été. Mais je voudrais aussi rappeler ici que oui. Le Rwanda n'a pas signé la clause obligatoire de juridiction, ce qui rend aujourd'hui la Cour internationale de justice incompétente à juger le Rwanda, ce qui fait que quand bien même le Rwanda violerait ou violait les dispositions de cet accord-là, la RDC ne pourrait pas l'attaquer au niveau de la Cour internationale de justice, à moins que la clause d'une juridiction ad hoc soit incluse là-bas, encore que cela procédera de la clairvoyance de nos représentants.
Voilà, merci Christian Kassessé. Depuis qu'on parle, vous avez insisté sur l'importance de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il faudra absolument pour vous faire respecter qu'il soit tous les accords qui peuvent être signés. Et vous pensez également il faut une réparation de, en tout cas de tout ce qui a été causé comme préjudice à la RDC à cause de ces conflits armés à l'est du pays avec le Rwanda. Merci à Christian Kassessé depuis Kampala. Et Eric Herry, vous êtes à Kalemie, vous avez la parole.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Une note spéciale aux auditeurs de la radio Okapi de la ville de Kalemie, à partir d'où je vous appelle. L'accord, la ratification, les traités internationaux, ou que sais-je encore, ça dépend de la manière dont on appelle ça, mais ça signifie une conclusion entre un État et un autre. Et c'est une question qui relève énormément de la patrie. C'est une question qui est en lien avec la patrie. Moi, en ma qualité de conseiller communal, j'ai tenu participer à ces débats pour apporter mon apport. J'ai suivi l'invité qui est au plateau, qui est revenu plusieurs fois sur l'article 213 de la Constitution, 214 de la Constitution, évidemment, qui parle des traités, des ratifications, conclusions, peu importe. Mais que ça soit 213 ou 214, ces articles stipulent expressément que, c'est vrai, le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux, mais il est tenu d'informer l'Assemblée nationale, le Sénat, et que ce soit le gouvernement qui doit conclure les accords non soumis à la ratification. Le gouvernement, bien entendu, il est tenu aussi d'apporter connaissance de cette ratification à l'Assemblée nationale ou le Sénat. Moi, ce qui me préoccupe, et c'est la question peut-être que je voudrais lui poser pour qu'il réponde, je ne veux pas, je ne sais pas si la RDC, en ratifiant ou en donnant son accord par rapport à la manière dont on va faire cette convention, le Rwanda et la RDC, est sous les auspices, sous la médiation des États-Unis. Ma question maintenant, quel est le problème que la RDC veut régler? Parce que je me rappelle, j'ai fait un travail qui portait sur l'accord, l'impact de l'accord cadre d'Addis Abeba dans la région des Grands Lacs, cas du Nord Kivu. Je suis revenu sur plusieurs accords qui ont été déjà signés par la RDC, que ce soit les communiqués finaux de Nairobi, que ce soit, parce qu'à mon entendement, je ne vois pas jusque-là quel est l'accord qui serait un accord égal à l'accord qu'a déjà signé la RDC. C'est celui d'Addis Abeba qui a engagé tous les États limitrophes de la RDC, même les États qui ne sont pas limitrophes de la RDC ont été partie prenante à cet accord. Mais cet accord, je rappelle qu'il n'a pas instauré la paix en RDC.
Alors voilà, Eric, Amy, on a compris, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y aura des particuliers, des différents par rapport à tous les autres accords précédents de pays. Merci Eric Herry, depuis Kalemie, notre invité va réagir. Patti Maïmba, vous êtes à Bande de Nouville, on vous écoute.
Oui, bonjour cher Marcel, bonjour à tous ceux qui nous suivent ici à Bande de Nouville et à notre invité, M. Joseph. La question de curiosité que je mérite, est-ce que M. Joseph est le porte-parole du président ou c'est un parlementaire, notre député qui doit parler pour notre part? C'est une question que lui-même peut-être pourra nous dire s'il est porte-parole ou non. du gouvernement. L'invité, en l'écoutant, il cherche un peu à nous situer comme quoi Doha, c'était pour parler avec les groupes armés. Et maintenant, aux États-Unis d'Amérique, c'est le président de la République qui va se rencontrer avec son homologue, Paul Kagame. Maintenant, si je peux encore lui demander, à Rwanda, c'était pour qui, pour la rencontre avec qui, lui saura comment nous répondre. Et l'invité, vous allez nous dire ce qu'on aura ici de plus efficace par rapport aux rencontres précédentes. Qu'est-ce qui est difficile pour que la RDC s'assume? Comment on se dit pays solution peut-être, ou un pays indépendant, mais qui les problèmes que ce pays a, il faut qu'on aille ailleurs pour trouver solution. On ne sait pas. Le problème, c'est Rwanda, c'est Afse, Corneille Nangaa, ou c'est où? Donc, moi, personnellement, franchement, je suis perdu. Si c'est le M23 se réclame comme étant des Congolais, nous avons les pactes que les évêques, les pères spirituels sont en train de mener. Qu'est-ce qui est difficile que le gouvernement se saisisse derrière cette action pour appeler les soi-disant Congolais, nos frères M23?
Voilà, Pati Maïmba, donc pour vous, il faut une solution congolaise au problème congolais. Voilà, donc c'est ce que vous voulez dire avec voilà. Que, voilà, merci, on a compris. On a compris, Pati Maïmba, depuis Bandundouville, l'honorable va réagir. Merci d'avoir appelé depuis Bandundouville. Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa. On vous écoute.
Merci beaucoup, monsieur Marcel, pour vous m'avoir jugé. Je voudrais, avant mon intervention, rappeler à tous que lorsqu'on parle des traités internationaux, on parle d'un accord, d'un pacte ou d'une entente entre États. Alors, on doit éviter de personnaliser les présidents, les gouvernements. L'État est représenté par ses plénipotentiaires. Il s'agisse du président, du ministre, des députés. Il représente l'État. Après avoir négocié, on adopte, on ratifie, on promulgue. Donc, faut qu'on évite de personnaliser. Par rapport à l'émission de ce jour, je vous dis merci pour le thème. Mais je voudrais, à l'égard de l'invité, rappeler ce qui suit. En relation internationale, monsieur l'honorable, il n'y a pas d'action sans intérêt. Je ne vois pas les États-Unis ou les Qatar agir pour l'intérêt du Congo. Ils sont en train de suivre leurs intérêts. Souvenez-vous du dernier clash entre Trump et le président ukrainien. Deuxième chose, en relation internationale, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que d'alliés. Si dans cet accord entre le Rwanda et la RDC, les États-Unis ne se retrouvent pas, il va pas s'impliquer. Donc quand on négocie, on doit le faire avec prudence et intelligence. Deuxièmement, on ne doit pas croiser les bras parce que les États-Unis sont impliqués. Parce que l'invité donne l'impression de dire que ouf, c'est bon, les États-Unis sont là. Mais l'histoire est têtue, on la change pas. On en subit les conséquences. Allez en Ukraine. L'Ukraine a signé plusieurs accords avec la France, les États-Unis. Aujourd'hui, elle est toujours attaquée par la Russie, malgré ses différents accords internationaux et ses soutiens. Donc la présence des États-Unis n'ont rien apporté. C'est l'organisation interne qui fait que l'Ukraine persiste. Allez en Israël, qui est le pays chéri des États-Unis. Chaque fois, ce pays fait l'objet des attaques palestiniennes, malgré les différents accords signés avec les États-Unis et son implication directe. Donc on doit éviter de dire « ouf, ça va » parce que tel pays s'est impliqué. Nous sommes d'accord, toute initiative doit être louée, mais on ne doit pas s'asseoir pour dire oui. Pour finir, parce que l'émission tend vers la fin, je suis d'accord avec toute initiative interne ou internationale qui tend à chercher la paix. Et pour moi, la vraie solution commence au niveau local, au niveau interne. Il faut favoriser les pactes de prêtres, parce qu'on ne peut pas traiter les problèmes des Congolais sans les Congolais. Ils connaissent mieux ces problèmes, ils savent mieux les gérer. Au niveau international, je suis d'accord. Il faut qu'il y ait des accords parce que lorsqu'on est attaqué, il y a des fronts. Le front militaire et le front diplomatique. Il se pose un problème, monsieur Marcel. Depuis toujours, celui qui m'a précédé l'a dit. J'ai même publié un article là-dessus. Nous avons plus de 20 accords de paix signés pour la paix à l'Est. Aucun accord n'a été respecté. Le plus récent, c'est celui de l'Addis Abeba de 2013, qui avait des dispositions savantes, mais qui n'ont jamais été appliquées. Paix à son âme, les profs Basse nous disaient, les droits internationaux étaient un droit mou. C'est-à-dire, ils contiennent des propos mielleux, des écritures heureuses, mais sur terrain, il faut la volonté politique des États. La première cause qui fait que ces accords ne soient pas appliqués, c'est la cause. Aujourd'hui, on a signé un accord avec le Rwanda. Mais l'M23 continue. Si vous lisez l'accord que l'invité fait allusion, il n'y a pas de manière directe la solution. Nulle part, le Rwanda n'a reconnu dans cet accord que c'est lui qui soutient l'M23. C'est un accord pour respecter les frontières, pour se respecter la souveraineté. Ça ne traite pas directement les problèmes. On est d'accord avec les accords, mais la première solution, c'est la volonté politique des gens qui signent. Le Rwanda, la RDC et les pays qui accompagnent. La deuxième solution, c'est l'organisation interne. On ne peut pas espérer l'aide du voisin si soi-même on n'est pas organisé. Renforcer l'armée, défendre nos frontières et les restes viendront après. Voilà ce que je peux dire. Donc les États-Unis sont là, nous sommes d'accord avec leur aide. Mais faites attention, en relation internationale, il n'y a pas d'action sans intérêt.
Voilà,
négocions avec prudence et intelligence.
Voilà, négocions avec prudence et intelligence. Merci Omar Kigalo d'avoir appelé depuis Kinshasa. Avant de retrouver notre invité, c'est une réaction d'Alain Tchababina du Kassai Central sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. Autant de processus convergeant vers une seule issue qui est la paix tant attendue par les compatriotes vivants dans les zones sous occupation de rebelles, c'est bien. Mais ce qui me révolte, c'est de constater que tous ces processus ont montré leurs limites. Et qu'est-ce qui garantit que celui initié par les États-Unis conduira à bon port? Dès lors que ce sont les richesses de notre pays qui attirent les Américains et non la paix qui prétendent nous imposer à tout prix en échange de nos ressources naturelles. Je suis pessimiste quant à l'aboutissement de ces accords tant que les intérêts du peuple congolais seront placés après ceux des Américains et même du Rwanda. Voilà, ça c'est Alain Tchaba qui a réagi sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Il est également Bernard Malouma qui nous écrit depuis Kananga. La RDC est devenue un terrain des comédies pour les politiciens qui pensent que ce pays devient leur patrimoine. Et Zachary Laurent qui nous écrit, nous regrettons beaucoup de voir que le pays est considéré comme l'un des pays qui possède beaucoup des docteurs et des hommes des sciences, mais qui se comportent comme des petits enfants. Le Congo, c'est pour les Congolais et le Rwanda, c'est pour les Rwandais. Alors pourquoi la richesse du Congo doit être partagée avec le Rwanda pour qu'on trouve la paix? Est-ce que la richesse de la Russie est partagée avec l'Ukraine pour qu'il trouve la paix? Voilà. On revient à notre invité honorable Joseph Nkoy. Vous avez suivi toutes ces réactions et qu'est-ce que vous en dites?
Merci beaucoup, Monsieur Marcel. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi les interventions des compatriotes. Toutes les interventions peuvent se résumer dans ce que je peux considérer comme je le dis, des alertes qu'on fait aux autorités de la République, au gouvernement, pour avoir développer plus de sens et de responsabilité dans le cadre de toutes ces négociations. Je vais peut-être commencer par notre dernier intervenant qui a
Omar Kigalo, oui.
Oui, qui a parlé de la déclaration des principes où aucune disposition n'est n'est défini clairement ou dans aucune disposition il est indiqué que le Rwanda prend la responsabilité de ne plus soutenir les groupes armés en RDC. Je le rappelais que la déclaration de principe, c'est un portail qui ouvre à des discussions. Et c'est au niveau des discussions que l'on saura soulever toutes les questions dans tout le détail. Ce n'est pas dans l'accord. On dit que c'est l'accord des principes. C'est-à-dire, on fixe les lignes maîtresses, on fixe les aspects fondamentaux sur lesquels seront axées les discussions. Donc, la déclaration de principes, c'est fin. C'est pas dans la déclaration des principes qu'on trouvera de manière claire comment l'une ou l'autre partie prend la responsabilité par rapport aux accusations dont on est reproché. Alors, je vais revenir à monsieur Christian. Je le dis ici que lorsque vous lisez la déclaration signée par le ministère des Affaires étrangères, il est réaffirmé que la position de la RDC reste ancrée dans la résolution 2773. Et donc, dire ici qu'on n'a pas fait allusion à cette résolution, c'est peut-être le fait qu'on n'a pas lu la déclaration, le fait qu'on n'a pas eu toutes les informations. Je vois ici les gens me traiter, ou je souviens un intervenant qui me dit, suis-je le porte-parole du gouvernement, du président de la République, ou je suis parlementaire. Je le dis, que je suis député national, je suis parlementaire, j'ai reçu les mandats du peuple. Mais nous avons tout de même le devoir d'éclairer l'opinion, d'éclairer ces peuples-là lorsque il y a des questions qui échappent. Évidemment, il y a des informations qui circulent, il y a des rumeurs qui circulent. Mais lorsqu'on en a fait pas des analyses détaillées, le peuple est emporté dans cette désinformation. Et si je prends la lourde responsabilité d'éclairer l'opinion, d'éclairer les peuples dont ou de qui j'ai reçu mandat à l'Assemblée nationale. La nouveauté actuellement, c'est que cette déclaration aborde de manière globale, de manière holistique, de manière tout à fait générale, toutes les questions, et essentiellement économiques, comme je le dis, qui sont à la base des conflits ou de l'instabilité en République démocratique du Congo, s'agissant de l'aspect sécuritaire. Et donc, c'est tout à fait logique que dans le cadre de la recherche de la pacification de notre pays, que l'on puisse aborder tous les aspects économiques. Évidemment, comme je le dis, il est du devoir du gouvernement, et les intervenants, les auditeurs les ont rappelé, que le gouvernement, les autorités doivent être vigilantes dans le cadre des conclusions de ces accords ou dans toutes les discussions. Je pense qu'en toute responsabilité, nous pouvons faire confiance au gouvernement, nous pouvons faire confiance au président de la République. Je note encore. Il y a un auditeur qui a condamné le fait que moi je n'approuverai pas la démarche des prêtres catholiques. Et que pour eux.
Parce que beaucoup insistent que c'est la cohésion nationale.
S'il vous plaît. En fait, c'est ça l'idée que l'on a. En réalité, je pense que ce n'est pas ça. Je le dis ici. Si on doit résoudre les problèmes congolais, on doit trouver des solutions aux problèmes congolais. Mais pourquoi aller visiter d'autres États? Il faudrait retenir ceci, qu'on ne doit pas confondre l'hospitalité que certains pays offrent à ces prêtres catholiques-là et la pensée profonde dans le cadre de ces conflits-là. Il y a un auditeur qui a souligné qu'entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et si on considère cela, alors pourquoi les prêtres catholiques qui cherchent à résoudre les problèmes qui sont congolais vont aller visiter d'autres chefs d'État, vont aller visiter d'autres gouvernements? C'est paradoxal, c'est contradictoire. La logique ici voudrait que si cette initiative, à mon sens, qui d'emblée peut être louable, doit consister à faire un travail au niveau interne.
Voilà.
Parce qu'en fait, lorsque vous regardez, parce que je me pose la question, depuis que les prêtres catholiques et ceci ont commencé cette démarche, je n'ai pas suivi un appui de leurs pairs d'autres pays. Je n'ai pas suivi. Au contraire, je dois avoir suivi une déclaration faite par la confession des catholiques de l'Union européenne, qui condamne fermement la manière dont les choses sont en train d'être gérées au niveau interne de l'ingérence du Rwanda.
Oui.
Mais malheureusement, nos pères catholiques donnent l'impression que la solution du Congo viendra du Rwanda, viendra de l'Ouganda, viendra de la France.
Donc vous faites bien de dire qu'ils donnent l'impression. De toutes les façons, pour les Congolais, il faut qu'on cherche également des solutions à l'interne. On va vous revenir
oui,
à vous.
Oui, c'est ça justement. Oui, oui. En fait, oui. S'il vous plaît. On donne l'impression comme si le président de la République, le gouvernement de la République ou le président n'est pas conscient des responsabilités qui sont les siennes et que ce sont les prêtres catholiques qui ont plus les soucis du
voilà, permettez
je ne pense pas que les choses
on va prendre un dernier auditeur et on va conclure avec vous honorable en point de dernier auditeur, c'est Maître Patrick Odia, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi, on vous accorde une minute, on est vraiment presque à la fin, on vous écoute Maître Patrick Odia, rapidement.
Marcel, dans une minute, je suis pas d'accord avec Delorme. Vous sentez même qu'il n'est pas assez à l'aise dans ses dires. Vous avez senti la difficulté avec laquelle il essaie d'expliquer l'accord de principe. mais il oublie que l'accord de principe donne généralement l'idée de ce qui pourrait être spécialement conçu comme protocole d'accord. Et là, lorsqu'on parle de l'aspect économique, co-gestion des ressources minières, l'honorable ne pense pas ou ne refuse de penser également ou d'expliquer au peuple que, parlant de la, des ressources minérales ou des ressources minières également, il y aura une co-gestion. Alors, la RDC qui a bien des ressources humaines, bien des ressources minières, mais le Rwanda qui n'en a pas, mais nous allons quand même co-gérer. Il a, l'honorable ne l'a pas dit. Deuxièmement, également, pour citer Marcel,
oui,
nous avons dit autrefois la semaine passée qu'il faudrait également que cet accord, avant qu'il soit ratifié ou signé, qu'il passe au Parlement également. Mais là, je me dis également qu'il se lève encore une question également sur l'efficacité des travaux parlementaires, de la production législative ou de l'analyse qui pourrait être faite par le Parlement également en termes de cette, en termes de redevabilité qui pourrait être également.
Voilà.
Est-ce que nous avons des honorables députés au niveau de l'Assemblée nationale qui pourront agir de leur indépendance sans dictat de la présidente de la République, de l'Union sacrée également, analyser objectivement cet accord?
Maître Patrick,
Maître Patrick Audia, mais je pense que 80% des députés de l'Union sacrée ne pourront pas le faire également.
Voilà, merci.
Le peuple soit vigilant pour exiger à ce que, qu'il y ait même une émission exclusive, on expliquera également au peuple.
Voilà, on va y revenir, Maître Patrick Audiova, vous avez l'honorable, là, ça donne l'occasion qu'il réagisse rapidement par rapport au rôle que le Parlement peut jouer, et sur la cogestion honorable, vous réagissez rapidement, ce sera votre conclusion.
Écoutez ceci, la cogestion ne signifie pas ici que les richesses que la République démocratique du Congo a sous son sol seront partagées avec le Rwanda. Il faut relever ceci, qu'il y a de ces ressources-là qui sont en cheval. Je l'ai souligné, qui traversent des frontières. Je vous ai dit ceci, qu'il y a des principes fondamentaux qui sont fixés dans cette déclaration de principe. Ce sont notamment le respect de la souveraineté. Et la souveraineté, c'est au niveau du sol et du sous-sol. Quand on dit que vous êtes souverain sur votre sol, votre sous-sol, ça dit que c'est vous qui gérez de manière souveraine ce qui vous appartient. Il faut retenir encore ceci. Que il parle de la procédure ou de l'intervention du Parlement. Je vous ai parlé de l'article 214 de la Constitution. Le Parlement intervient pour la ratification et pour l'approbation. Cela veut dire que l'instrument doit d'abord exister et que le Parlement vienne approuver ou ratifier. Comment pouvons-nous procéder à la ratification ou l'approbation de quelque chose qui n'existe pas? Si le gouvernement n'a pas encore signé cet accord-là, est-ce que le Parlement va approuver?
Il dit de toute façon, vous allez le signer. D'après lui, vous
allez le signer. Mais c'est ça justement. C'est-à-dire, il signe, il n'y a pas lieu de pouvoir incriminer les parlements ou la responsabilité des députés nationaux, mais il faut retenir qu'on doit respecter certains prescrits constitutionnels, notamment l'article 214 qui prévoit la ratification et l'approbation. Et donc,
je veux dire 30 secondes.
Oui. Il y a un auditeur qui a dit que est-ce que le Rwanda sera, je ne sais pas, est responsable de tout ça. Je dis ceci, que dans tout instrument juridique, surtout international, il est toujours défini les modalités de résolution des différends qui naîtront dans le cadre d'exécution de cet instrument-là. Et donc, il n'y a pas à craindre, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs,
voilà.
Attendons que l'accord soit signé pour que nous puissions nous rassurer de ce qu'il y a dedans.
Voilà, beaucoup de prudence tout de même. Merci beaucoup, honorable Joseph Koy. Je rappelle, vous êtes député national élu du Kata-Kokombe, dans les Sankou, rapporteur adjoint de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été des nôtres.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, fin de ce magazine. Au revoir à toutes et à tous. We'll be right back.